Bonne fin d'après-midi sur le 106.1, il est 18h, on est ensemble pour parler customisation et recyclage vestimentaire. Spy, S-P-Y-E, c'est le nom de la boutique éphémère que vous trouverez au 49 rue François Mitterrand à Nevers. C'est aussi ici que vous aurez un accueil charmant avec un sourire communicatif, c'est celui d'Elsa. C'est sa boutique, c'est son entreprise, c'est son projet et sans aucun doute sa réussite à venir. Elle est avec moi dans le studio, bonjour Elsa.
Bonjour Théo.
Alors tu as 23 ans.
Oui.
Team 99, on va se tutoyer.
98.
98. Ah, donc tu vas avoir 24 ans.
Oui, je vais avoir 24 ans.
Bon, donc t'as un an de plus que moi, on va se tutoyer quand même.
D'accord, ça me va.
23 ans, mais une vie déjà bien remplie. J'ai fait mon travail de journaliste, rassure-toi, je suis pas espion, mais justement, spy, ça se traduit en français par espion. Est-ce que c'est un lien ou pas?
Oui, parce que j'adore peindre les yeux, et du coup, vous retrouverez en fait le logo de spy, qui est l'œil, sur quasiment toutes mes pièces. Et donc, en général, ils sont peints dans le dos, donc référence aux yeux et à l'espionnage.
C'est ta signature.
Voilà, c'est ça.
C'est ton œil que tu peins ou c'est des yeux qui te viennent en tête comme ça?
Je suis fascinée par les yeux de manière générale, donc je sais pas, je saurais pas dire.
Tu regardes les yeux avec tes yeux bleus.
Voilà, c'est ça.
On reviendra évidemment sur ton magasin et puis ce beau projet aussi, mais juste avant, j'aimerais parler de toi. T'as grandi à Nevers, t'as fait la majorité de tes études ici, après t'es partie à New York et t'as même travaillé là-bas.
Oui, voilà. Donc moi, je voulais absolument parler anglais. Je trouvais que c'était super important pour réussir dans sa vie de parler anglais. Et du coup, en fait, j'ai commencé mes études à Lyon, dans une école de commerce. J'ai fait 3 ans là-bas et ensuite, je suis partie en partenariat dans une école partenaire aux États-Unis. Du coup, j'ai obtenu un double diplôme franco-américain en finance. Et ensuite, par la suite, j'ai travaillé en tant que business developer dans un cabinet d'avocats à New York.
Et t'es rentrée? Voilà.
Et je suis rentrée fin août 2021.
Pourquoi?
Mon visa a expiré, malheureusement.
Et tu n'as pas pu...
Non, et c'est très compliqué pour rester aux États-Unis. La manière la plus simple, c'est de se marier. Et c'était pas du tout dans mes projets.
Mais tu étais dans l'optique de base de rester quand même là-bas. Tu te voyais pas... base, revenir...
Oui, voilà. En fait, si mon visa n'avait pas expiré, jamais je serais rentrée sur Nevers, pour être honnête. Mais toute bonne chose a une fin. Et au final, je regrette pas parce que je suis bien ici à Nevers. Donc,
mais tu gardes quand même une bonne expérience de New York.
Oui, voilà. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Après, je pense que les États-Unis, c'est quand même un monde parallèle. On garde pas les pieds sur terre. Et j'avais quand même besoin, en fait, je ressentais ce besoin d'un petit retour aux sources. Et du coup, en fait, le fait que mon visa expire, ça a permis en fait de faire cette transition assez facilement.
Puis on pourra revenir dessus tout à l'heure, mais je pense que ça t'a amené peut-être une inspiration artistique certaine. Bon, c'est une ville aussi de mode.
Oui.
Je pense que ça t'a amené une certaine vision différente de chez nous. Tu te rends compte alors que toutes les conditions sont réunies pour te consacrer à un projet, finalement, revenant chez nous, qui trottait dans un coin de ta tête depuis un moment, et maintenant, ça s'appelle Spy.
Voilà, c'est ça. Je suis rentrée du coup fin août, j'ai continué de travailler pour les États-Unis. Je faisais des horaires décalés et je me suis rendu compte que je voulais pas retourner aux États-Unis, donc ça servait à rien de continuer de travailler pour un cabinet d'avocats à New York. Donc j'ai démissionné fin janvier et je me suis dit bon, maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai envie de retourner travailler, faire 8h-18h ou 9h-18h dans un bureau toute la journée? Non, c'était pas du tout pour moi. Donc j'ai postulé à quelques tafs et puis ensuite je me suis vite rendu compte que moi j'avais pas du tout envie de faire ça. Et que toutes les conditions étaient réunies, en fait, pour pouvoir me lancer mon projet, un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui me trottait dans un coin de la tête depuis longtemps. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie, vas-y, lance-toi.
Et c'est un projet que tu as bâti parce que tu as aussi une autre passion à côté, c'est de peindre, déjà de base, c'est
voilà,
des tableaux.
C'est
et
ça.
Donc tu as voulu allier au final la mode, l'écologie aussi, on va y revenir parce que c'est quand même un combat important pour toi. Et le fait de peindre des tableaux, tu l'as réuni en un seul projet.
Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, la mode, c'est de l'art. On voit de l'art partout. Et je partais du principe que l'idée en fait, de peindre sur des vêtements, ça pouvait être un bon combo avec cette troisième... touche qui est l'environnement. Je pense que ce trio-là pouvait en fait être vraiment une bonne idée à assembler et à mettre en avant en fait.
Et comment tu procèdes? Comment tu choisis tes pièces? Comment tu choisis tes motifs aussi? Ta peinture, toi, il y a un procédé qui est toujours le même ou tu y vas en fonction de tes envies, en fonction de ton humeur?
Voilà, comme tout artiste, j'y vais en fonction de mes envies, de mes humeurs. Si c'est le moment de peindre, je vais peindre et parfois je peux rester des semaines sans peindre parce que je suis pas dans l'humeur de peindre. Après, moi, j'ai toujours chiné mes vêtements. J'adore chiner les vêtements. Toujours dans ce côté éco-responsable. Voilà, moi, ça m'intéresse pas de m'habiller comme tout le monde. Je veux mettre ma petite touche de personnalité. Et je pars du principe que chaque personne a une personnalité différente. Et du coup, je trouve ça dommage que tout le monde essaye de rentrer dans un moule, de suivre les dictats de la mode. Parce que la façon de s'habiller devrait en fait montrer aux gens notre personnalité. Et en un coup d'œil, on pourrait savoir qu'est-ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quel groupe on appartient, ce qu'on veut devenir, etc. Et je trouve ça dommage en fait que les gens n'osent pas plus exprimer leur personnalité à travers leurs vêtements.
T'arrives à dissimuler la personnalité de chacun en regardant si, par exemple, tu sors sur le pas de ton magasin et tu vois quelqu'un habillé en rouge, en bleu, en vert ou avec plein de couleurs ou tout en noir.
Oui, voilà.
Tu vas réussir à savoir...
Et aussi, je vois aussi les gens qui essayent de suivre la mode et qui, en fait, suivent par contrainte en fait, la mode et ne sont pas à l'aise dans leurs vêtements. Et ça se voit, ça me choque, ça saute aux yeux, en fait, pour moi. Et je trouve ça dommage parce qu'ils pourraient tellement s'exprimer librement à travers les vêtements et s'assumer. Et je pense que ça pourrait aider aussi les gens à s'assumer, en fait, comme ils sont et assumer leurs choix, en fait, dans leur vie via leur style vestimentaire, en fait.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'au final... S'assumer vestimentairement parlant, mais même au-delà du vestimentaire, je pense que ça vient avec l'âge. Mmh. Mais dans la période où on va parler de l'adolescence, on va dire 15, 20, 23 ans, où on est dans des études avec beaucoup de monde autour, avec beaucoup de jeunes autour, il y a beaucoup de « oh, regarde-le, oh, regarde comment il est habillé », alors que des fois, il y a plein de choses qui font qu'il est habillé comme ça, ou même des fois des choix, des envies. Mmh. Et il faut pas juste se renfermer sur « je vais m'habiller comme lui parce que comme ça, ça me plaît ».
Voilà. Je pense que le style vestimentaire permettrait aussi de prendre confiance, justement, à part de l'adolescence, etc. S'assumer vestimentairement parlant, prendre confiance en soi et oser montrer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas.
Et ça s'explique bien par le combat que tu exprimes sur ton site internet. Je te cite « J'ai toujours été passionné par la mode. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens veulent tous s'habiller de la même manière et rentrer dans un conformisme. Notre différence et notre richesse, assumer ses choix et assumer son style font partie intégrante du charisme. »
Oui, voilà. Je pense que ça résume bien la situation et mon point de vue sur la mode de manière générale et comment les gens devraient s'habiller, en fait, et oser.
Donc
oser.
Même un homme de 1m90, carré d'épaule, peut s'habiller en rose. Ça lui amènera un charisme quand même.
Si lui, il aime le rose et qu'il se sent bien en portant du rose, il devrait porter du rose. Oui.
C'est un combat que tu as. Il y a aussi un engagement. Il y en a un autre, un engagement important aussi. C'est l'enjeu écologique et environnemental. C'était important pour toi d'être actrice de solutions via le recyclage.
Oui, voilà. Il faut savoir que l'industrie de la mode, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de dropshipping, les grandes marques, etc., l'exploitation des enfants. Mais moi, c'est surtout la pollution, en fait, des fonds marins qui me touchent déjà particulièrement, qui me tient à cœur. Et je pense qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on a plein de solutions pour lutter contre cette pollution environnementale. Et je pense que, oui, acheter du seconde main, c'est peut-être pas à la mode. Il faudrait que ça le devienne. C'est pas parce qu'un vêtement a été porté par une autre personne qu'une autre personne ne pourra pas le porter après. Il faut savoir qu'un vêtement est en moyenne porté 7 fois au cours de sa vie. Et c'est pas parce qu'une personne n'en veut plus qu'une autre personne n'en voudra pas. Et moi, en fait, voilà, en peignant sur les vêtements, j'essaye de remettre au goût du jour ces vêtements qui pourraient être un peu has-been, entre guillemets, qui pourraient plus suivre les codes et les tendances de la mode du moment, pour justement en fait leur donner une seconde vie et leur permettre d'être porté à nouveau, en fait.
Même si le seconde main quand même prend une ampleur quand même importante, avec aussi les friperies qui montent de plus en plus.
Voilà, c'est ça. C'est tout un mouvement en ce moment, et je pense que c'est pour ça aussi que je voulais me lancer à ce moment-là, parce que c'est en train de prendre de l'envergure, les gens commencent à être sensibilisés par rapport à ça, et je trouve ça cool. Voilà.
Et sensibilisé, tu l'es aussi, parce qu'il faut noter quand même que 10% de tes ventes au 30 juillet 2022, fini au 30 juillet 2022, iront à Sea Shepherd. Si je le prononce bien, mon anglais, je pense, moins bon que le tien. Mais...
Non, c'est bien prononcé.
Et donc, c'est une organisation internationale de conservation marine.
Voilà.
Sur ce que tu proposes des pantalons, des vestes, des pulls. Il y a même aussi des chaussures. Mm-hmm. Et donc, on peut également faire des commandes personnalisées, c'est ça ?
C'est ça. Donc moi, j'ai ma marque de vêtements. Donc, je vais faire des vestes en jean, des trench, des blazers, des jogging, des suites. Avec mes motifs, ma peinture, mes dessins, mes designs. Et si vous aimez le concept, mais que les designs sont un peu trop farfelus pour vous, ou vous avez vraiment une idée précise en tête, vous pouvez m'apporter votre veste en jean ou votre blazer, m'apporter une image et je pourrai la retranscrire et la peindre sans problème sur votre veste. Ou alors, vous me dites simplement, j'aimerais avoir des papillons, des oiseaux, j'aimerais avoir de la couleur bleue, rouge. Juste peint dans le dos, sur les manches aussi, et je vous fais en fait la veste de vos rêves, tout simplement.
Et le hasard fait bien les choses, parce que quand donc j'ai travaillé cette émission et que je t'ai rencontré, j'ai voulu mettre une veste que j'ai lavée par la suite et que j'ai tachée à la Javel, homme seul que je suis. J'ai taché cette veste et donc je vais te la donner.
Ah,
et tu vas me la sauver.
D'accord.
Et je mettrai l'avant après sur le Facebook de Bac FM pour que les gens se rendent compte du travail que tu fais, parce que le dire comme ça c'est bien, mais le voir c'est encore mieux. Mais le voir, ça va être possible, on en parlera. Le but d'une boutique éphémère, c'est justement qu'elle soit éphémère. Tu es en possession des lieux jusqu'au 4 juillet.
Ouais.
C'est quoi la suite après pour toi?
Alors la suite, c'est une grande question. Pour moi, c'était un peu un crash test ces 2 mois de boutique éphémère. Donc pour l'instant, j'ai qu'une semaine de recul. Donc pour l'instant, ça se passe bien.
Oui, c'est quoi ton point de vue là depuis
Je suis agréablement surprise. Les gens sont assez réceptifs à mon art, entre guillemets. Ce que je propose, on va pas se mentir, c'est assez... Enfin, ça se voit pas, ça se trouve pas ailleurs à Nevers. Donc je pense que les gens sont intrigués. J'ai bon retour de manière générale. Je pensais viser une tranche des 15... 16 ans, 25 ans, et en fait, il y a des quarantenaires qui sont fans de ce que je fais. Et donc, en fait, je pense que je peux toucher à un panel beaucoup plus large au niveau de l'audience. Je suis vraiment agréablement surprise. Donc, on verra par la suite. Je ne veux pas trop m'emballer non plus. Voilà, l'idée déjà générale, c'était déjà de faire un crash test pour voir si les gens étaient... Ça leur plaisait déjà d'une manière générale. Si ça pouvait se vendre aussi. Parce que par la suite, j'ai un site internet et du coup, je voulais me faire connaître via la boutique éphémère pour ensuite, du coup, vendre via internet. Je vous cache pas que avoir le contact avec les clients et leur expliquer vraiment en direct ce que je fais, j'aime beaucoup. J'aime être dans ma boutique, voir les gens passer, discuter avec eux, connaître leurs envies, leurs besoins, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas. Donc oui, si ça marche vraiment bien, pourquoi pas continuer sur cette lancée et réouvrir une boutique peut-être éphémère encore, mais pour la collection d'automne-hiver, pourquoi pas, ça serait envisagé. Sachant que sur le long terme, j'aimerais beaucoup avoir mon atelier et ensuite collaborer avec les jeunes de Jean Rostand qui sont en filière couture. Voilà, plein de personnes qui pourraient, je pense on peut tous s'entraider et ça pourrait redynamiser la Nièvre et Nevers avec ce côté jeune, mode, street art, streetwear, voilà. Donc ça serait vraiment sur le long terme. Idéalement, ça serait l'objectif, d'ouvrir un atelier ici avec que des jeunes, tous s'entraider et vendre, en fait, faire des collections printemps, été, hiver.
Tu veux rester dans ce principe de collection printemps, été, automne, hiver?
Voilà, c'est ça. Après, pour l'instant, je fais juste je peins sur les vêtements. Si après, je peux aussi récupérer les tissus d'anciens vêtements pour recréer vraiment toute une collection de A à Z sans spécialement peindre sur une veste qui est déjà conçue. Ça pourrait être une idée aussi, mais là il faudrait beaucoup de personnes qui m'aident parce que je suis pas couturière dans l'âme, donc il faudra de l'aide.
Mais ça viendra à l'avenir.
Mais voilà, ça serait vraiment le projet sur le long terme. Donc à voir chaque chose en son temps. Moi c'est jour après jour. Voilà, c'est aussi ce côté cette mentalité américaine, je pense, de on se lance, on verra bien. Si ça marche, tant mieux. On verra par la suite. Si ça marche pas, tant pis. Et chaque jour après, chaque jour, voilà.
Mais tu veux rester chez nous, hein? Tu pars pas encore dans un autre pays?
Non, c'est bon, je suis bien en France.
Les jeunes talentueux restent à Nevers et dans la Nièvre.
Non, mais je pense que je me suis fait la réflexion. J'ai beaucoup voyagé parce que j'ai aussi travaillé en Nouvelle-Zélande et à Londres. Donc j'ai fait un peu les quatre coins de la planète. Et franchement, on est bien en France. Et pour l'instant, je me sens bien, surtout à Nevers. Le calme de la campagne, ça aide à la créativité.
Mais Londres aussi, qui est une ville très, très pop art, très,
oui, voilà.
Très, je pense à cette rue où a vécu Amy Winehouse, très, très, très mode.
Il y a du street art partout,
c'est
très inspirant aussi. Ouais.
Parce que, oui, donc je voulais revenir sur ta manière de communiquer, parce que tu parles de ton site internet, tu as aussi Instagram,
oui.
Donc ça c'est pour les personnes un petit peu plus jeunes qui nous écoutent, mais tu as une manière de communiquer qui est maintenant quand même quasiment professionnelle. Tu as un site internet qui est très, très bien fait avec... toutes les photos de tes pièces avec des modèles photos. Des modèles photos, c'est tes amis, je pense, qui...
Oui, voilà, mes amis. J'essaye, en fait, de trouver des personnes qui pourraient correspondre à mon style, à l'image que je veux renvoyer de la marque. Et oui, c'est principalement des amis parce que j'ai tout simplement pas le budget pour payer des modèles professionnels pour le moment.
Et puis pour te faire connaître et voir cette rue cette boutique pardon très colorée, très très lumineuse, qui est malheureusement dans une rue un petit peu en travaux en ce moment, tu organises un vernissage.
Voilà, ce vernissage ce sera samedi toute la journée. Voilà, donc ça sera l'occasion de pouvoir échanger avec vous, de participer à un jeu concours. Voilà, donc toutes les personnes qui passeront à la boutique ce samedi, je leur donnerai une petite feuille de passage Et du coup, ils pourront participer au jeu concours. Je pense que le lot à gagner, ce sera une veste personnalisée. Voilà. Et bon, j'offrirai aussi un cocktail. Voilà. Pouvoir échanger, en fait, tout simplement.
Et à boire.
Autour d'un verre. Voilà.
Je viens.
Ce samedi, avec de la musique. Je suis en train de voir aussi pour qu'il y ait un peu des danseurs. Parce que, en fait, j'aimerais beaucoup créer un événement autour de la musique, de la danse et des vêtements. De la sape d'une manière générale. Donc,
à l'image vraiment américaine, voilà. Et londonienne, voilà. Comme on voit dans les films des fois. Où...
Voilà, redynamiser un peu ce petit centre-ville et attirer les gens. Donc voilà.
Et bon, auditeurs de Bac FM, je vous invite à aller voir ce beau magasin. C'est au 49 rue François Mitterrand. Quel jour et quelle heure pour venir ?
Samedi 14 mai, toute la journée. Alors après, entre 14h et 18h. C'est là où il y aura le plus de monde, donc vous êtes invités, voilà.
Et le restant de la semaine ?
Le restant de la semaine, je suis ouverte du coup du mercredi au samedi, de 10h à 19h non-stop. Pareil, vous pouvez venir dans la boutique, je serai ravie d'échanger avec vous et de vous présenter mon projet.
Et puis pour finir, je vais conclure avec une phrase de Coco Chanel que je pense tu aimes beaucoup. Mm-hmm. Pour être irremplaçable, il faut être différent. Je suis persuadé que des jeunes comme toi qui sont nombreux dans notre département sont irremplaçables et il faut les mettre en valeur, c'est important. Merci Elsa d'être
Merci
venue
Théo.
Nous
Merci.
Voir dans les studios de Bac FM.
The Weeknd in Your Eyes, c'est le titre que tu as choisi à l'image de ta marque Spy. Et juste après, j'accueille Simon, cofondateur de Losange, une start-up spécialisée dans le surcyclage. Bougez pas.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you. We'll be right back.
Et puis mon deuxième invité s'appelle Simon Perronneau. Il est créateur avec son ami Mathieu Coury d'une marque de vêtements neversoise engagée dans la thématique de l'éco-responsabilité et du surcyclé. Il va nous expliquer tout ça car il est à côté de moi. Bonjour Simon.
Bonjour.
C'est quoi le surcyclé ?
Le surcyclé, alors c'est quelque chose qu'on peut mettre en parallèle avec le recyclage pour vraiment comprendre. Quand on parle de, par exemple, un sweat qui a été recyclé, c'est souvent qui a été créé avec un tissu, donc un fil qui a été lui-même recyclé. Et ce fil, en fait, c'est, par exemple, prenons 100 sweats qui sont mis dans une machine qui va détruire la matière, qui va recolorer, réépurer le tissu pour pouvoir recréer un fil qui, du coup, sera recyclé. Le surcyclage, c'est se dire on n'a pas besoin de toutes ces étapes intermédiaires et on peut directement, en fait, à partir de la matière première qui était originellement, du coup, un sweat, découper directement dedans pour pouvoir recréer après de nouvelles pièces plus moderne.
Voilà, en fait, c'est une manière différente de faire, mais ça reste quand même dans la même thématique.
Ouais.
Losange, c'est la marque avec laquelle vous produisez. Aujourd'hui, c'est combien d'employés de locaux ?
Losange, aujourd'hui, on est 10 à travailler sur le projet et on a deux emplacements, donc l'atelier et nos bureaux qui sont à l'Incube, puisqu'on est accompagné par le village Baïcia depuis 2 ans et demi, depuis qu'on est retourné à Nevers avec Mathieu.
Et vous êtes toujours à l'Incube.
Ouais, exactement, on est toujours à l'Incube. On a les bureaux là-bas, c'est du coup moi, le photographe et une personne à la communication. Et à l'atelier, il y a les 7 autres personnes qui du coup, elles sont dédiées à la production, au stylisme, à la découpe des vêtements, etc.
Vous parlez de votre entreprise comme un projet encore, mais c'est un projet qui évolue, que vous avez récemment embauché grâce à une levée d'amorçage. Alors
ouais.
C'est différent qu'une levée de fonds, c'est quoi une levée d'amorçage ?
En fait, dans la vie d'une entreprise innovante, donc comme on parle souvent de start-up, je sais pas si Losange c'est une start-up, mais en tout cas c'est une entreprise innovante, non pas dans son procédé, mais dans son approche.
Je pense qu'on peut la mettre dans le domaine des start-up, je pense.
Oui, en fait, mais c'est vrai que souvent, quand on parle de start-up, on pense deux choses. On pense un procédé innovant et on pense une croissance exponentielle du jour au lendemain. Or, Losange, on est sur non pas un procédé innovant, mais une approche innovante, l'upcycling. Je pense que nos grands-mères, nos grands-pères et les gens avant eux faisaient déjà de l'upcycling. Je parle très souvent avec des gens qui me disent « Bah oui, moi je fais déjà de ce genre de choses, je
sans
récupère
savoir,
mon vieux drap et j'en fais un torchon par exemple.
Mm. »
Boum, l'upcycling c'est ça en fait. Nous ce qu'on fait c'est juste qu'on développe une approche inédite en se disant « On va faire un truc plus poussé, d'une manière un peu plus quasiment industrielle, de produire des vêtements de cette manière-là, ce qui n'avait pas été fait auparavant. » Et donc dans ce sens-là, c'est l'approche qui est innovante. Donc c'est un peu sur ça qu'on se passe. Et donc pour reprendre du coup sur les méthodes de, dans les méthodes de financement, c'est vrai qu'au début on crée l'entreprise, on se finance avec des toutes petites bourses d'innovation, ou alors avec des amis, de la famille, etc. Et après arrive une étape où on commence à vraiment se dire on a trouvé le truc, maintenant il faut qu'on investisse énormément en recherche et développement pour réussir à valider cette première étape de le concept est là, maintenant il faut qu'on valide et à la fois en termes de technique et à la fois en termes de commercialisation. Et c'est l'étape qui est censée arriver juste avant la potentielle levée de fonds qui, elle, se traduira par carrément une expansion du modèle.
Plus forte.
Voilà, pour passer par exemple de 10 à 30 employés et produire peut-être passer là aujourd'hui de 250 à 800, 900, 1000 vêtements produits tous les mois, quoi.
Et donc la levée d'amorçage, c'est un pas en avant dans l'expansion de votre startup. Est-ce que ça vous a permis autre chose aussi que de l'embauche ?
Ça nous a permis de pouvoir, en termes de processus créatif, d'aller voir un peu plus loin. C'est-à-dire que nous, notre première contrainte, et je le dis souvent quand on produit des vêtements, c'est la matière première. Dans le sens où vu qu'on n'applique pas un processus de recyclage qui est qu'on va la détruire la matière pour la recréer, et ben il faut qu'on en récupère déjà une qui est de bonne qualité et qu'on va pouvoir travailler directement sans avoir à lui donner des artifices particuliers, sans avoir à utiliser des produits chimiques pour qu'elle soit à même d'être revalorisée, etc. Donc il y a toujours ce gros défi de trouver de la matière, et c'est un défi aussi du coup pour les équipes qui derrière doivent créer des collections à partir de ce genre de matière. Et donc cette levée, elle nous a permis de faire davantage de tests aussi, de se dire on va pas travailler que du sweat, qui était la matière évidente pour nous, parce qu'il y en a beaucoup de seconde main, mais d'aller chercher par exemple là pour l'été du drap en lin, d'aller chercher des trucs plus originaux. Là on va par exemple faire une quarantaine de pièces avec des anciens costumes de l'Opéra de Paris de Bastille. Donc ça c'est le genre de choses qu'on a pu se permettre grâce à cette levée d'amorçage qui nous a permis de se dire on peut tester, parce qu'on a un petit peu de trésorerie pour tester des choses, quoi.
Ça vous a permis d'avancer dans votre projet aussi dans la manière de faire. Justement, ouais. pour revenir sur cette manière de faire, c'est la procédure, la confection d'une pièce dans le but éco-responsable. Qu'est-ce qu'elle change? Qu'est-ce qu'elle apporte? Et surtout, qu'est-ce qu'elle évite?
Bah, en fait, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trois voies dans la mode éco-responsable. Le bio, le recyclé et la seconde main. Nous, notre objectif, c'est de proposer une quatrième voie, qui est celle de l'upcycling. C'est-à-dire moins d'impact encore que le bio et le recyclé, et ce côté original et stylé que peut avoir la seconde main. Il faut dire, la seconde main, aujourd'hui, c'est la consommation de vêtements qui a le moins d'impact, parce qu'on achète quelque chose qui est déjà là. L'upcycling, c'est quasiment la même chose, sauf qu'en fait, on va appliquer un processus très peu énergivore, c'est-à-dire on va juste découper et réassembler pour faire d'un sweat des années 80-90 qui est mal taillé, dont le col s'est déchiré, dont les bord-côtes en bas sont complètement détendus, et ben recréer un nouveau vêtement qui lui aura de la valeur aux yeux des gens, qui en plus sera fait en France dans des circuits courts avec une matière récupérée à Rouen, une matière découpée à Nevers et réassemblée en Bourgogne avec des ateliers neversois et avec des ateliers vers Dijon. Donc on est vraiment sur un processus où aujourd'hui dans un vêtement, si par exemple on émet avec un jean 100% de CO2, avec Losange on évite quasiment entre 90 et 95% de ces émissions là parce qu'on va retravailler une matière qui est déjà là avec un processus qui est peu énergivore, etc.
Et vous l'avez dit, Dijon, Rouen, en essayant de travailler 100% français et aussi 100% local, on reviendra dessus tout à l'heure, mais dans votre manière de faire aussi, vous évitez un schéma que j'ai trouvé sur votre site internet, qui a été fait par une étude qu'on a pas mal entendu parler, qui s'appelle McKinsey, sur ce que consomme un vêtement fait par, on va pas citer les grandes marques, mais voilà, fait un vêtement neuf qu'on achète en magasin, tout ce qu'il produit, et c'est vraiment ce que vous voulez éviter. Et on voit que les machines textiles consomment énormément pour la création d'un vêtement.
Ouais, c'est des choses qui consomment énormément, et c'est vrai que assez surprenamment, justement, on se rend compte que 95% de la pollution liée à la production d'un vêtement, elle est à 70% dans les machines et à 25% dans les matières premières. Matières premières, c'est l'extraction, etc., de matière, et les machines, c'est la découpe, la création du fil, etc. Aujourd'hui, à Losange, en fait, on utilise une matière qui est déjà là. Il n'y a donc pas d'extraction de matière. On utilise un processus de confection qui ne fait pas intervenir de grosses machines de découpe ni de grosses machines d'épurage de matière, de destruction de matière, etc. Contrairement même au recyclage. Hein. Donc en fait, on va vraiment au bout, du bout de ce qu'on peut faire en termes de production éco-responsable et à faible impact pour la planète.
C'est de ce constat-là que vous est venu l'idée de monter cette boîte?
Ouais, exactement. C'était moi, pendant mes études, j'ai fait pas mal de recherches académiques sur le sujet de la mode et de la mode éco-responsable particulièrement. Et je me suis rendu compte assez rapidement dans mes recherches à mon faible niveau qu'en fait le bio et le recyclé, c'était un bon début, c'était des supers alternatives, mais qu'il était possible d'aller encore plus loin et surtout de réutiliser une matière première qui pour l'instant est vraiment pas utilisée. C'est-à-dire que en France, et le chiffre est vraiment surprenant, on jette tous les ans 400 000 tonnes de vêtements, donc c'est énorme. En Europe, c'est 4 millions de tonnes. Et pourtant, à l'échelle européenne, il y a seulement 1% de ces vêtements qui est revalorisé. Donc, où est-ce que finissent les 99 autres? Ils finissent dans des décharges à ciel ouvert au Chili ou dans certains pays du nord-ouest de l'Afrique. Et en fait, c'est désastreux en termes d'environnement. Et en fait, ces 99%, on peut en faire des choses. Donc, on peut peut-être pas tout recycler ni tout revaloriser, mais en fait, on peut baisser énormément la part de vêtements qui sont jetés ou bazardés à l'autre bout du monde. Et c'est dans cet objectif que Losange est né aussi, quoi.
Et c'est des fois aussi des déchets qu'on retrouve dans le fond des océans. Et c'est un engagement que porte Elsa, mon invitée précédente. J'aimerais vous citer sur votre site internet. Nous sommes nombreux à exprimer notre personnalité à travers notre style vestimentaire et donc à acheter de nouveaux vêtements. Pourtant, le secteur de la mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde, en grande partie à cause de la volonté des marques de créer du neuf à partir de ressources nouvelles. C'est le même discours donc qu'a eu mon invitée précédente, qui est Elsa, qui a ouvert sa boutique éphémère rue François Mitterrand. Quand vous voyez que la jeune génération comme Elsa, même si je vous mets pas dans l'ancienne génération, est-ce que vous dites que c'est bon signe pour l'avenir que des jeunes s'engagent comme ça?
Ouais, c'est génial. On voit bien d'ailleurs, de toute manière, sociologiquement, on voit bien que plus on est jeune, plus on a une conscience écologique élevée. Ça se traduit dans les bulletins de vote, mais ça se traduit même dans tout un tas d'autres choses, sur les réseaux sociaux, sur les engagements personnels que les gens prennent pour être en lien direct avec l'actualité. Là, on a vu même hier des étudiants d'AgroParisTech qui mettaient en avant le fait qu'ils voulaient plus travailler pour les multinationales, pour les industries polluantes, etc. Donc j'ai l'impression que notre génération, elle est quand même complètement consciente de ces enjeux, que c'est hyper important d'aller à fond sur ces enjeux-là. Et c'est plutôt rassurant de se dire que les gens qui ont plus ou moins notre âge, autour de nos âges, à 5 ans de plus, à 5 ans de moins, ils ont quand même vraiment conscience de cette crise écologique dans laquelle on est aujourd'hui. Et je pense qu'ils vont réussir à influencer le marché. Dans le sens où, même si les grosses entreprises sont tenues par des gens qui sont pas de notre génération, ça reste des entreprises qui écoutent le marché, parce qu'ils veulent continuer à survivre. Et je pense même s'il est possible au niveau législatif de faire bouger les choses, au niveau des grands groupes de faire bouger les choses, en fait, au final, ce qui fera le plus bouger les choses, c'est les gens qui achètent et les gens qui consomment. Et ces gens qui consomment, ils sont de plus en plus conscients, et surtout les plus jeunes. Donc c'est moi qui suis quand même plutôt positif et qui ai pas envie de dire c'est bon, c'est la fin, il y a plus rien à faire. Je suis hyper content et hyper positif par rapport à cette génération en effet qui arrive quoi.
Alors justement ça prend lien avec ma question suivante. Je voulais vous citer: l'industrie du textile a perdu la raison. Nous n'avons plus le choix, il faut produire moins et autrement. J'allais vous demander si on n'avait plus le choix et si c'était déjà trop tard. Mais non, alors.
Non, moi, je pense que il est jamais trop tard. Même si les rapports du GIEC et de tous les chercheurs sont alarmants, je pense qu'il est quand même envisageable de renverser la tendance, de limiter en tout cas ce qui est en cours. Et ça passe par une production différente. Il y a beaucoup de marques qui s'engagent dans ce sens-là. C'est produire moins, c'est produire mieux, et c'est produire pour plus longtemps. C'est vrai que c'est chez Losange, c'est quelque chose qu'on a fait naturellement, mais je vois qu'il y a pas mal de marques, pour citer Asphalt par exemple, mais il y en a plein d'autres, Loom aussi, enfin, des marques qui sont pas forcément les éco-responsables à 100% comme d'autres marques, mais qui ont des engagements qui sont hyper importants, qui sont maintenant on fait moins de vêtements, mais surtout on les fait pour durer. Et c'est tout l'impact par exemple de la dernière campagne de com d'Asphalt, qui était: on fait un t-shirt, et il y a un graphique qui était hyper intéressant et que je piquerai peut-être sûrement un jour pour Losange, qui montre qu'en fait, acheter un t-shirt à 50€, si jamais en fait on l'utilise pendant 10 ans, au lieu d'acheter tous les ans un t-shirt à 10€, et ben en fait ça, c'est très vite beaucoup plus rentable et beaucoup plus intéressant. Donc je pense que c'est vers ce genre de choses qu'il faut se tourner quoi.
Et savoir acheter la qualité pour la garder aussi plus longtemps. Monter un projet comme le vôtre, je pense qu'il y a aussi eu des barrières sur votre chemin.
Des milliers.
Des milliers.
Des milliers de barrières. Il y a eu beaucoup de barrières, il y a eu beaucoup de choses qui sont compliquées quand on crée un projet. Surtout que nous, on est arrivé dans un secteur qui était ultra concurrentiel, avec un modèle d'entreprise qui est compliqué. C'est vrai que là, par exemple, je pense que si on prend toutes les startups qui sont à Nevers, mais même si on prend toutes les startups d'une manière générale, mais Nevers, ça reste un bon exemple puisqu'on les connaît, il y en a aucune qui se base tout son processus sur une production manufacturière. Nous, notre business model, il est à 100% sur la production et la vente de vêtements. Aujourd'hui, on a des gens qui produisent et des vêtements, donc c'est compliqué de se baser uniquement sur ça. On n'est pas une application, on n'est pas un truc. Donc on a des, j'imagine que ceux qui développent ça ont aussi eux-mêmes leur lot de problèmes. Mais nous, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes qui viennent de là, des prix des matières, des ateliers, du fait qu'on doit avoir beaucoup de sous-traitants pour tout un tas de trucs. Du coup, ça complique énormément. Donc déjà que monter un projet, c'était compliqué, mais alors monter un projet innovant de confection, enfin là, c'était vraiment encore plus compliqué.
Surtout quand il est innovant et que c'est un modèle qu'on a peu l'habitude de voir encore. On espère que
exactement,
ça viendra,
ouais.
Mais justement, vous travaillez avec des partenaires dans la récupération de tissus aussi?
On travaille dans la récupération, on travaille surtout avec Rouen, donc avec Eureka Frib, qui est le plus gros, et il faut être fier de ça, c'est le plus gros grossiste d'Europe qui est français, qui est à Rouen, qui trie 4000 tonnes de vêtements tous les ans, donc c'est énorme ce qu'ils font. Et nous, on travaille surtout avec eux, quasiment exclusivement. On a juste pour certaines matières où on a travaillé un peu avec un fournisseur qui est dans le sud de l'Angleterre, qui nous a envoyé des pantalons de travail, mais parce que c'est une ressource qui est très peu disponible en France, donc exceptionnellement, on a travaillé avec un fournisseur anglais. Mais ouais, c'est très chouette d'avoir ces acteurs. On travaille aussi un peu avec le Emmaüs de Nevers, dans une certaine mesure, parce qu'ils n'ont pas non plus des milliers de choses. Mais par exemple, pour les draps en lin avec lesquels on va faire des chemisettes cet été et des shorts, on a utilisé au moins, je pense bien, 200-300 kilos qui venaient de là-bas.
Alors justement, au-delà d'un enjeu écologique et environnemental, il y a aussi un enjeu économique. Vous exprimez énormément l'objectif et l'importance, on l'entend encore là et aussi sur votre site internet, pour vous de travailler 100% français et le plus local possible avec des acteurs de la Nièvre et créer des emplois aussi peut-être sur le secteur à l'avenir.
Ouais, c'est, je sais que je l'ai pas connu moi, mais la Nièvre a été un bassin de textile hyper important. Il y avait beaucoup d'entreprises autour d'ici, il y en a très peu qui ont survécu et qui existent encore. Et pourtant, on a bien vu, nous, quand on a cherché nos premières personnes pour intégrer l'entreprise au niveau des postes couture, couturier, couturière, etc., qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche de ce genre d'emploi. Et, Et pour nous, c'était une évidence avec Mathieu de vouloir revenir ici, de un, et de deux, de vouloir créer de l'emploi ici. Et c'est vrai que c'est dans ce but, vraiment, qu'on continue Losange. Certes, on a envie d'avoir un impact, certes, on a envie de progresser, certes, pour nous-mêmes aussi, on a envie que l'entreprise, elle marche, que ça reste valorisant d'avoir monté ce projet-là, mais il y a vraiment cette dimension de se dire, on est venu ici, on a réussi à créer de l'emploi, à faire venir même d'autres profils, parce que il y a créé de l'emploi de personnes sur le territoire, des Nivernais, des Nivernaises qui cherchent un emploi. Mais il y a aussi, et c'est des belles réussites, des gens qui viennent de Paris, qui viennent de Rouen, qui viennent de Reims, qui sont venus travailler à Losange, que ce soit en stage ou en CDI, en se disant, bah tiens, je vais venir habiter à Nevers. Et ça aussi, c'est super d'avoir, moi, dans mon équipe, Clémence, 25 ans, qui est designeuse de vêtements et qui était parisienne et qui est venue habiter à Nevers en disant, bah, pour le projet, et maintenant, ça fait un an et demi qu'elle est là et elle adore la ville. Je me dis, ça, c'est aussi des jolies histoires à raconter.
Et ça rejoint aussi un petit peu l'histoire d'Elsa, encore une fois, qui oui. a quitté New York, on l'entendait juste avant dans l'interview, pour venir s'installer dans la Nièvre et retrouver le calme aussi de la campagne. Et c'est très bon signe pour notre département. Justement, l'avenir, il s'annonce comment ? Dans une interview, l'année dernière, vous exprimez votre envie de lancer une production à grande échelle.
Oui.
C'est en 2021, là on est en 2022. Bon, on est en début d'année 2022. Oui. On en est où dans ce projet-là ?
Bah en fait, les entreprises comme la nôtre, je pense les startups, fonctionnent sur des cycles de croissance qui vont de 12 à 18 mois. On s'est créé en février, entre guillemets, 2019. En 2020, et on a vraiment lancé tout en août. Après, on a eu ce premier cycle de 12 mois qui nous a apporté jusqu'à 2021, la fin d'année 2021, durant laquelle, en décembre, on a validé la levée d'amorçage. Et maintenant, on a un troisième cycle qui se lance de 12 à 18 mois, qui nous portera entre décembre 2022 et juin 2023, où on espère faire une levée de fonds pour pouvoir nous permettre de passer d'un local de 100 mètres carrés à un local de 300 mètres carrés, de 10 personnes à 30, 40 personnes, et du coup de pouvoir faire une production en interne de Losange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on découpe les vêtements, mais on les fait assembler ailleurs. Ce qu'on aimerait, c'est découper et assembler partout.
Voilà, l'assemblage est en partenariat avec une autre entreprise, c'est ça ?
Avec plusieurs entreprises. Il y a Le Nevers à Nevers, il y a Meubles des Ponts, il y a l'ANAR, l'association d'insertion. À Chenot, c'est une association d'insertion aussi. Il y a un ou deux ateliers, en Île-de-France. C'est super et ça les fait fonctionner. Nous, ça nous fait des choses à faire assembler, etc. Donc, c'est vraiment des jolies synergies, particulièrement avec l'ANAR, avec lesquels on espère pouvoir travailler de plus en plus en synergie. C'est-à-dire que les prochaines personnes qu'on va recruter, on espère pouvoir les cibler directement des bénéficiaires de là-bas, parce que ça fait un an qu'il et elle travaillent avec Losange. Mais du coup, l'objectif, voilà, c'est là, on est au tout début de ce nouveau cycle de 12 à 18 mois et on espère d'ici juin 2023 avoir réussi à prouver que commercialement c'est une réussite et du coup pouvoir aller envisager cette levée de fonds.
J'ai une dernière question, Simon, avant de vous dire au revoir. Pourquoi Losange ?
Il y a malheureusement pas de belle histoire derrière Losange. C'est vrai que j'ai beaucoup de communicants autour de moi, des ateliers du village ou même des gens avec qui j'ai échangé, avec lesquels on travaille au quotidien, qui m'ont conseillé d'inventer une histoire. J'y songe encore à inventer une jolie histoire. C'est vrai que si jamais on y réfléchit avec le recul maintenant, je me rends compte qu'en fait ça peut prendre sens parce que le losange c'est une forme géométrique et au final tout ce qu'on fait chez Losange c'est assembler des formes géométriques qu'on découpe dans des vêtements pour pouvoir en recréer d'autres. Et il y a cette idée d'une forme et du coup chez Losange un de nos leitmotifs c'est que tout reprenne forme, que des suites qui ont les cols qui vont plus, qui sont trop grands, qui sont trop petits, que les draps en lin qui sont un peu tachés à certains endroits, bah ils reprennent forme et une forme de vêtement. Donc ça c'est l'histoire que j'aimerais raconter. La vraie histoire c'est juste que c'est une sonorité que j'adore, le ange. Et quand j'en ai parlé avec l'équipe, ils trouvaient ça trop cool aussi. Et on s'est dit, on n'a pas d'histoire tout de suite, mais forcément ça va nous parler un jour. Et ça nous a parlé il y a quelques mois quand on a pensé à cette idée de forme et qui reprenne forme, etc. Et donc on est quand même hyper content de ce nom quand même aujourd'hui.
Donc il n'y a pas de belle histoire, mais il y a une logique.
Voilà, il n'y a pas de belle histoire, il n'y avait pas de belle histoire au début, mais il y en a une qui est en train de s'écrire, quoi.
Mais la belle histoire, voilà, c'est la suite de Losange. J'en suis sûr. Merci Simon d'avoir accepté mon invitation pour cette émission consacrée au recyclage et au surcyclé vestimentaire. Globalement, à cette nouvelle manière de produire dans le textile, ça me tenait à cœur de mettre en avant des acteurs locaux dans cette démarche et cet enjeu de plus en plus important, voire urgent. Je vous conseille d'aller voir les sites internet de mes deux invités respectivement, SPY, SPYE et Losange, pour vous intéresser à leur manière de faire et leur donner de la force. Bac FM, on reste ensemble à l'écoute du 106.1, on passe la soirée ensemble et on se quitte avec un son choisi par mon invité Simon.
Je pense qu'un de mes artistes préférés en ce moment c'est The Blaze et peut-être Heaven de The Blaze.
Juste après ce sera Coldplay avec Animals, c'est ce qui arrive, à demain, bye.